Alors voilà, l'objet de mon propos était, comme je l'ai indiqué, de tracer un peu brièvement la genèse de notre projet. Donc je commence en faisant rapidement une allusion aux antécédents. Parce que faire de la commune law en français n'a pas toujours été évident. En 1976, on avait demandé au doyen Soberman, qui était doyen de la faculté de droit de Queens, un rapport parce que la commission d'enseignement supérieur des provinces maritimes se demandait s'il fallait bien ouvrir une faculté de droit en français à Moncton. Dans sa conclusion, le doyen Soberman avait dit, et je cite, « Il est impossible de devenir compétent sur le plan professionnel en matière de common law dans une autre langue que l'anglais. » Alors, vous voyez qu'il a fallu faire pas mal pour faire accepter la légitimité de la common law en français. Quand a débuté cette entreprise de franciser la common law ou de refranciser la common law, en fait, parce que, comme vous le savez tous, le français était la langue de la justice en Angleterre jusqu'au 17e siècle. Il y a jamais dans ce genre de choses un point de départ absolu, évidemment. Même avant la série vocabulaire de la Common Law qui a commencé au début des années 80, le vocabulaire du CTTJ, il y avait des éléments de Common Law en français dans la législation fédérale, dans les lois du Nouveau-Brunswick, le Kenner, enfin. Il y avait des travaux à l'Université d'Ottawa qui avaient été faits, etc. Donc, c'est dans les années 80, on peut dire que les travaux ont commencé de façon plus globale et de façon plus systématique. Et après, il y a eu, à partir de 84, PAGELO, le programme qui s'appelait à l'époque Programme pour l'administration de la justice dans les deux langues officielles, qui était coordonné par Régent Patry. Il y a eu l'inauguration d'une série de lexiques normalisés et le premier lexique en 1984 portait sur le droit de la preuve. Après ça, en 1993, début de Juritern, la banque terminologique de la Common Law. En 1997, le dictionnaire canadien de la Common Law dans le domaine du droit des biens et du droit successoral. Alors là, une étape importante dans ce domaine-là qui avait été faite sous l'égide de PAGELO. Depuis ce temps-là, il y a eu toute une série de lexiques normalisés dans le domaine des fiducies, des contrats, des délits, des sûretés, et actuellement, on travaille dans le domaine de la famille, du droit de la famille. Et en plus, évidemment, il faudrait parler des lexiques qui ont été faits à partir de dépouillements au Manitoba, en Ontario, au Yukon, etc. Donc, il y a eu bien des choses. Tout ça, ce sont des éléments qui ont précédé, si on veut, notre projet, qui lui-même a un point de départ qui est difficile exactement à identifier. C'est curieux, mais on se demandait, Jean et moi, à quel moment on a commencé. On a eu des... Tout ce qu'on sait, c'est que déjà en l'an 2000, on discutait de ce projet et on avait déjà commencé à jeter sur papier des exemples de ce que pourrait ressembler, des notices, etc. Donc, vous voyez, on ne se rappelle pas exactement à quel moment que l'idée a germé. L'idée est venue de Jean Van der Linden, quand même. C'est vraiment en janvier 2006. Que là, le projet a été lancé de façon vraiment officielle. C'était parce que on a pu obtenir, grâce à l'intervention de la faculté de droit, et Lynn Castonguay est au bout de la table, était à l'époque directrice adjointe du CITLEF, et c'est grâce en grande partie à ses efforts qu'on a pu obtenir un financement important de Justice Canada. Et je remercie André Duchesne, qui est là ce matin, pour cette confiance que Justice Canada nous a faite, que non seulement on avait verront la capacité de faire cet ouvrage, mais aussi qu'on allait aboutir. Parce que vous savez, quand on fait un dictionnaire, c'est une chose de commencer, c'est une autre chose d'aboutir. Donc, ça vous dit à peu près comment a commencé le projet. Maintenant, au début du projet, il fallait déterminer un certain nombre de paramètres. Et c'est ça la grande difficulté. Il y a de ces paramètres qui ont été un petit peu modifiés en cours de route, mais, et on en parle beaucoup dans l'introduction à l'ouvrage que je vous essayer de lire, mais je voudrais vous faire part d'un certain nombre de ces paramètres. D'abord, qui était le destinataire de l'ouvrage? C'est une chose importante. Si on fait un dictionnaire de ce genre, il faut se demander à qui c'est destiné, parce que ce ne serait pas le même ouvrage si c'est destiné à la population en général, par exemple, ou si c'est destiné à des spécialistes, ou si c'est destiné à des étudiants en droit. Et il y avait un d'entre nous, qui était Donald Poirier, qui était le professeur d'introduction au droit à Moncton, et lui tenait absolument à ce que l'ouvrage vise les étudiants de première année en droit. C'était ça qui était lui son... Et il nous en a convaincu. Alors vraiment, on a fait l'ouvrage avec à l'esprit l'étudiant qui s'initie pour la première fois à la Common Law. Jacques, qui lui est européen et qui voulait que l'ouvrage aussi ait une certaine présence en Europe, voulait également que l'ouvrage rejoigne les étudiants, les juristes français, donc les étudiants plus avancés, mais qui s'initiaient eux également pour la première fois à la Common Law. Donc vous voyez un peu, c'est ça notre destinataire de l'ouvrage. Jusqu'à maintenant, les étudiants de première année utilisent, bon, il y a les ouvrages que j'ai mentionnés, là, les vocabulaires, etc., mais s'ils veulent avoir un véritable dictionnaire de la Common Law, devaient jusqu'à maintenant utiliser des ouvrages anglais tels que le Black, par exemple, qui est très populaire en première année. Donc, ça, pour ce qui est de la destination. Deuxième question, c'est est-ce qu'on doit faire un dictionnaire encyclopédique ou un dictionnaire pratique? Il y a des petits dictionnaires, disons, genre nul n'est censé ignorer la loi là, de Jacqueline Bromberger. C'est un ouvrage plus de vulgarisation et on aurait pu penser que, bon, puisque c'est pour des étudiants de première année, il ne faut peut-être pas être trop en pointilleux, il faut peut-être un peu être plus vulgarisateur, mais ce n'est pas la décision qu'on a prise. Finalement, on a décidé, même si ça s'adressait à des étudiants de première année, que c'était un ouvrage qui se devait d'être encyclopédique et dans lequel les juristes pouvaient également trouver leur compte. Et notre source d'inspiration, notre modèle en quelque sorte, ça a été le Oxford Companion to Law et aussi le Jowett Dictionary. Ce sont deux ouvrages qu'on peut qualifier de dictionnaires encyclopédiques de la Common Law. Autre question qu'on s'est posée très sérieusement, et ça est revenu souvent dans nos discussions, c'était les rapports avec le droit civil. Parce que l'un de nous, Jacques évidemment, Jacques Van der Linden, étant un grand spécialiste mondial du droit comparé et des institutions civilistes, ça a été très facile pour Jacques, à chaque entrée, de faire un commentaire sur bon, les rapprochements, les distinctions avec le droit civil. Et il faut dire qu'il était très tenté de le faire. Alors, après bien des discussions, Jacques a accepté d'y renoncer, cependant, si je peux dire ainsi, et il s'est abstenu de bonne grâce de faire trop de commentaires sur le droit civil. Il est arrivé de temps en temps, surtout pour faire des distinctions qui s'imposent, mais l'ouvrage est réellement centré sur la Common Law. Et on y tenait beaucoup parce qu'on voulait que ce ne soit pas un ouvrage de droit comparé, on voulait que ce soit un ouvrage de Common Law. Common Law, quel Common Law? Parce que, comme vous savez, la Common Law, comme le droit civil d'ailleurs, est multiple. Il a, la Common Law a une nationalité, et les nationalités sont multiples. Alors, il n'y a pas une Common Law, c'est un peu un mythe de parler de la Common Law, parce qu'il y a des Common Law dans tous les pays. Et dans toutes les provinces au Canada. Et donc, il fallait décider est-ce qu'à chaque entrée, on allait parler de la Commonwealth anglaise, canadienne, australienne, etc., états-unienne, on n'allait plus en finir. Et donc, on a décidé, après bien des débats encore, que notre référence principale serait la Commonwealth anglaise. Et on savait qu'on prenait un certain risque ce faisant, parce que notre ouvrage allait être lancé d'abord au Canada. Mais la Commonwealth anglaise est c'est le système souche de la Commonwealth. Et donc, on a pensé que, bien qu'il y a parfois quelques distinctions qui sont indiquées, lorsque les termes ont des sens radicalement différents dans un système ou dans l'autre, notre disons, référence principale, c'est la Commonwealth anglaise. Et on explique, encore une fois, dans l'introduction, les raisons, je vous incite à les lire. Ensuite, la terminologie qui allait être employée dans l'ouvrage, parce que, bon, on fait un dictionnaire de la Commonwealth français, il y a eu bien des vocabulaires, tout ça, comme j'ai expliqué avant, mais il n'y a jamais eu un ouvrage global de la Commonwealth, donc il y avait des choix terminologiques à faire. Bien sûr, tout ce qui était terminologie normalisée, bon, ça, on l'utilisait, mais à côté de la terminologie normalisée, il y a beaucoup de termes qui n'ont pas encore été normalisés et qui ont été recommandés par soit le CTTJ ou par d'autres, mais il y a des usages flottants, comme il y a des usages flottants en anglais aussi, vous savez bien. Et est-ce qu'on allait en tenir compte? Oui, on a décidé qu'on allait donc partir de la terminologie normalisée, utiliser les termes qui nous paraissaient les plus justes pour exprimer les réalités, utiliser les termes de la législation lorsqu'il s'agissait de droits qui ont été légiférés en partie ou en entier, comme le droit pénal, par exemple, et utiliser la synonymie pour des termes qui sont flottants, qui pour l'usage est encore flottant, donc on peut, à partir des entrées secondaires, se retrouver, même si on part d'un terme qui n'est pas nécessairement le terme normalisé, on peut quand même arriver au terme normalisé par le biais de la synonymie. Que faire du latin? Ça, c'est toujours un problème, et c'est vrai en anglais comme en français, mais il fallait donc décider, comme vous savez, en droit, il y a plusieurs termes latins, en droit civil, mais en commun là également. Et on a suivi un peu la même approche qu'on avait suivi en faisant les travaux de normalisation, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, on traduit en français. Et on laisse l'usager décider s'il veut utiliser le terme latin, bon, libre à lui, mais nous, en tout cas, on propose un terme français. Évidemment, sous certaines réserves, parce qu'il y a des termes latins, comme vous savez, qui sont pratiquement francisés. Il y a des a priori, il y a des prima facie, il y a des termes que sinon tout le monde, au moins tous les juristes comprennent. Et donc, il fallait évidemment faire la part des choses, mais en gros, on a francisé d'une façon raisonnable. Il y a aussi le latin qui se trouve dans les adages, vous savez, dans les maximes. Il y en a beaucoup dans la Commonwealth, tout comme dans le droit civil. Ça aurait été un autre dictionnaire s'il fallait avoir recensé toutes les maximes. On en a compté au-delà de 2000, 3000, mais un peu plus dans le blanc. On en a gardé à peu près une vingtaine, tout simplement pour montrer qu'on était conscient qu'il y avait des maximes latines. Mais que, puis, à chaque fois, on propose une approximation en français, mais là, n'était pas vraiment le propos. Et c'est l'objet d'un autre dictionnaire que je laisse à quelqu'un d'autre. Le féminin, alors, ça, c'est toujours aussi un problème. Et donc là, il y avait deux questions qui se posaient. Est-ce qu'on va désexiser tout l'ouvrage? Et là, ça amène des lourdeurs, comme vous savez, parce qu'il faut répéter chaque mot, chaque fois le même terme. Et c'est quand même, les noms des actants reviennent assez souvent dans le droit. Et deuxième question, c'est si on féminise dans suivant quelle école, là, parce que y a, la féminisation n'est pas la même en Europe qu'en Amérique du Nord, puis même selon certaines régions, puis selon certaines institutions. Et donc, on a décidé, et on sera peut-être critiqué pour ça, mais enfin, il fallait faire des choix, on a décidé qu'on allait systématiquement donner le féminin dans la vedette. Si c'est un terme qui se féminise, évidemment. Et ensuite, on utilisait le masculin. Alors, ça allège le texte, mais évidemment, ça donne pas un texte entièrement sexisé. Pour ce qui est du choix du féminin, bien, on a. Dans la mesure où le Robert donnait un féminin pour un terme, là, on utilisait ce féminin, puis on le féminisait de la même manière. C'est-à-dire, si c'était un, on utilisait le même mode de notation. Sinon, bien, on suivait la pratique canadienne dans les ouvrages que vous connaissez sur les guides de féminisation, etc. Et c'est un peu ça qui nous a inspirés. Autre chose, c'est ce que j'appelle procéder par grappe. Au début, quand on discutait, au début des années, comme je disais, on monte aux années 2000, etc., dans l'esprit de mes collègues qui avaient peut-être moins d'expérience que moi à faire des dictionnaires, ils voyaient ça dans un ordre alphabétique. Hein. On commence un dictionnaire, bon, le premier mot c'est a priori, etc. Alors moi je leur disais, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, sinon on n'aboutit jamais. On a eu l'expérience avec le jeu du dictionnaire, on ne voulait pas faire l'erreur. Et je pense avoir bien convaincu mes collègues qu'il fallait plutôt prendre une approche de ce que j'appelais des grappes. Les grappes, c'est un peu des domaines, mais ça peut être des sous-domaines. Alors si je prends l'exemple des biens, par exemple, ben, les tenures, c'était une grappe. Alors on faisait les tenures. Lorsqu'on avait fini les tenures, on pouvait faire les fiefs. Alors là, c'est toute une autre grappe des domaines, si on veut, des intérêts domaniaux. Et une fois qu'on avait fini ça, on pouvait faire les bâillements, etc. Donc, cet avantage d'utiliser des grappes, c'est que ça nous permettait de nous concentrer, parce qu'autrement, on passe du coq à l'âne, etc. Et ça peut être intéressant, là, comme l'a montré mon collègue, de passer de A à Z. En faisant du coq à l'âne, et c'est très poétique, mais pas tellement, ça n'aboutit pas nécessairement. Et avec le système des grappes, ça nous permettait de savoir où on en était, et de faire des rapports à André Duchesne, là, qui retenait le chèque, si on ne pouvait pas montrer qu'on faisait.
Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir-là, si j'avais su.
Il avançait les portes. Autre chose, c'est que l'ouvrage est imprimé. C'est un ouvrage traditionnel, si on veut, mais on sait qu'on est dans une ère électronique et qu'on verra sans doute bientôt une édition électronique du dictionnaire. Il fallait déjà y penser. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, vous verrez que tous les renvois sont soulignés. Et ces soulignements-là deviendront éventuellement des liens, des hyperliens. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le soulignement. Bon, maintenant je voudrais terminer en faisant le bilan de notre. Terminer, je veux faire quelques remerciements à la fin, là, mais. On avait au départ l'idée de recenser environ 1000 notions. Une fois que le manuscrit a été terminé, on en avait pratiquement 3000. Donc, c'était déjà plus que ce qu'on avait prévu à l'origine. Heureusement qu'on avait écarté le titre provisoire, parce que le titre, c'était les 1000 mots de la Common Law. Les 3000 mots, ce n'est pas vraiment des mots, parce que c'est des notions, mais enfin. On a quand même intitulé on a décrit le dictionnaire dans l'introduction comme étant un dictionnaire de l'essentiel de la Common Law. On n'a absolument pas la prétention qu'il y a seulement 3000 notions dans la Common Law. Il y a des domaines qui sont extrêmement pauvres, si on veut, Mais on a privilégié les domaines qui étaient les plus, comment je dirais, incontournables. Et quand à la fin, on fait, bon, finalement, on se retrouve avec 31 domaines. Là, vous avez la liste dans les premières pages, plus les généralités. Et quand on regarde maintenant quels sont les domaines les plus abondants, alors on trouve en premier lieu les biens, ensuite les contrats, ensuite le droit constitutionnel, le droit pénal, les délits civils et les fiducies. Alors vous voyez, ce sont quand même des domaines fondamentaux de la common law. Et ensuite, on a plusieurs domaines tels que l'organisation judiciaire, la preuve, la procédure. Si on regroupe l'ensemble du droit judiciaire, qui n'est pas un domaine, mais qui est subdivisé en plusieurs, en réalité, le droit judiciaire se trouve en première place, donc passe devant les biens. Mais c'était pas voulu comme ça, mais quand on fait le bilan à la fin, on s'aperçoit que les deux domaines principaux, c'est le droit judiciaire et c'est les biens. Alors, qu'est-ce qui caractérise la common law? C'est bien ces deux choses-là, comme vous savez. Donc, le dictionnaire, de ce point de vue, est représentatif, je pense, de l'essence de la common law. Le dictionnaire contient à la fin un index anglais-français. Et avons-nous atteint notre objectif? Nous croyons que oui, si on tient compte du fait que c'est une première édition. Alors, n'importe quel dictionnaire, la première édition va nécessairement être très imparfaite. On en est très conscient. On s'encourage en sachant qu'il y aura des éditions à venir sûrement avec l'appui continu de Justice Canada et de notre éditeur. Et c'est dans ces éditions à venir qu'on pourra vraiment améliorer l'ouvrage. Et c'est là qu'on demande votre collaboration, parce que lorsque vous verrez des coquilles comme Pierre Fab, qui était notre lecteur aux éditions, on a déjà trouvé une. vous nous les signalez, et vraiment, on va les recueillir, et ça nous permettra d'améliorer les éditions à venir. Maintenant, je voudrais vraiment terminer avec des remerciements. Il y a la faculté de droit, évidemment, c'est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage du CTTJ, parce que même si je suis un des collaborateurs, les trois auteurs, vous le savez, n'étaient pas rattachés au CTTJ, étaient rattachés au CICLEF, en réalité, qui était le Centre international de common law en français, qui a disparu l'an dernier pour donner place à l'Observatoire international des droits linguistiques. Jean Van Orden était à l'époque conseiller scientifique du CICLEF. Et c'est donc le CICLEF qui a présenté le projet à Justice Canada. Et la directrice du CICLEF de l'époque, qui était Marie-France Albert, se trouvait également doyenne en même temps. Et donc je remercie beaucoup la faculté de droit pour cette contribution. J'ai déjà mentionné celle de Lynn Castonguay. Nos adjoints de recherche, Sylvette Savoie-Thomas était un de nos adjoints. Shannon Robichaud a joué un rôle très important aussi, et d'autres. André Duchesne, que j'ai déjà mentionné, qui a eu confiance en nous et qui a convaincu ses collègues aussi d'investir dans la réalisation de ce projet. Toutes les personnes qui ont travaillé à la normalisation pendant toutes ces années, parce que nous en profitons de tout ce travail, et qui ont travaillé à l'avancement de la jury linguistique. Évidemment, Nicolas Cassirer, l'auteur de la préface, qui est notre d'Artagnan, comme Olivier a dit par la bouche de... Oui, c'est-à-dire que Jacques a dit par la bouche d'Olivier, il faut absolument lire la préface. Hein, c'est un ouvrage en soi. Là, c'est comme, vous savez, il y a des préfaces comme ça qui sont des œuvres littéraires en soi, là, dans l'histoire. Les éditions Yvon Blais. Alors, Louis Bossé, qui est à ma gauche, vous entendrez dans un instant. Pierre Ford, que j'ai mentionné, qui a fait un travail extraordinaire comme relecteur. Et on a vraiment apprécié le professionnalisme des éditions Yvon Blais. Et l'ouvrage est coédité avec Broiland, qui est un éditeur belge que je remercie également. Alors voilà. Merci.